Sur écoute, discussion citoyenne.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle émission. Ça s'appelle Surécoute et je vous propose de devenir les acteurs principaux de débats citoyens. Ce sera des émissions sur un thème sociétal, d'actualité. Pendant 30 minutes, des citoyens, des citoyennes, des hommes, des femmes vont échanger leur point de vue en argumentant au mieux. Cette première émission, les citoyens qui composent le plateau sont...
Marine, informaticienne, 26 ans.
Noémie, 20 ans et développeuse web.
Benoît, 27 ans et développeur. Pas web.
Thomas, 29 ans, agent de la fonction publique.
Nicolas, 27 ans, programmeur.
Bienvenue donc à vous tous. Le thème du jour est loi travail. On en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, à la télé, à la radio, dans les journaux. Vous avez donc 30 minutes pour en discuter tous ensemble, vos points de vue. Vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez des questions à vous poser, n'hésitez pas. Et vous êtes sur écoute.
En 2014, le gouvernement François Hollande, Manuel Valls 1, déclenche le CICE pour enrayer la hausse du chômage et inverser la courbe tant promise du chômage de François Hollande. Depuis le CICE, peu de remontée du chômage. Cependant, du coup, le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle loi pour favoriser l'emploi, débloquer les verrous qui bloquent les entreprises françaises dans leur compétitivité. Cette première version de la loi, dite El Khomri, loi travail, a été fuitée au tout début, qui a créé un tollé dans les syndicats tels que la CGT, la CFDT. Puis elle a été modifiée à de multiples reprises pour arriver à la version qu'aujourd'hui nous connaissons et qui passe par le 49.3 du gouvernement Manuel Valls 2. Aujourd'hui, on est là pour décider si cette loi est bien ou pas bien.
Bah, je dirais déjà que c'est bien, mais pas top. Après, entre les différentes versions qu'il y a eu de la loi, il y a plein de trucs qu'on sautait parce que ça avait vraiment fait un tollé à l'époque. Mais globalement, ce qu'ils essayent de faire, c'est donner plus de flexibilité aux entreprises, tout en contrepartie, forcément, il y a moins de flexibilité pour les salariés, mais d'autres processus apparaissent pour aider les salariés en contrepartie. Le problème, c'est que l'équilibre, maintenant, je crois qu'il n'y a plus personne qui est d'accord avec ni les entreprises, ni les salariés, ni les syndicats. Limite, je crois qu'il n'y a que Manuel Valls et machin El Khomri qui est d'accord avec la loi. Parce que du coup, par exemple, il y a une aide pour les chercheurs les personnes qui cherchent de l'emploi, mais ça coûte de l'argent. C'est compliqué parce que du coup, on ne sait pas concrètement ce que ça va donner au niveau de la recherche d'emploi. Par contre, les entreprises, de leur côté, elles ont plein de flexibilité. Elles peuvent virer les gens beaucoup plus facilement, entre guillemets. Enfin, ils ne vont pas les virer non plus sans raison, mais c'est beaucoup plus flexible côté entreprise.
Alors, pour corriger, en fait, ce qui est facile pour licencier, c'est en cas de perte financière de l'entreprise. Ouais. Il y a une facilité pour licencier une personne plus facilement au bout, je crois, de 3 mois de perte certain montant.
Ça dépend de la taille de l'entreprise.
Sachant que les entreprises, on fait un peu dire ce qu'on veut aux chiffres de nos jours, ils sont assez doués pour faire croire à des déficits alors qu'il n'y en a pas réellement. Donc ça reste une manière aussi de pouvoir rapidement et facilement, en 3 mois, virer quelqu'un ou une masse de personnes dans l'entreprise.
C'est comme l'entreprise Total qui délocalise toutes ses activités financièrement positives à l'étranger et laisse celles négatives en France pour ne pas payer d'impôts en France en disant qu'elle est déficitaire. Alors que globalement, elle ne l'est pas.
Après, la loi travail change des choses pour les employés, change des choses pour les salariés, pour les patrons. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'au final, les perdants, ce n'est pas les syndicats qui perdent le peu de pouvoir qu'ils avaient? Parce qu'au final, les grandes décisions qui vont être prises vont se retrouver au niveau de l'entreprise. Donc les grands syndicats comme la CGT, ceux qui sont en haut, ne vont servir à rien.
C'est pour ça d'ailleurs que l'article le plus décrié, c'est l'article 2, celui sur le fait que les accords d'entreprise priment sur les accords de branche. Article qui fait beaucoup parler et qui est en train d'être modifié, notamment dans certaines branches, comme par exemple dans les branches des transports routiers.
Parce que cette partie justement où on délocalise le pouvoir à l'entreprise, je trouve ça plutôt bien, puisque s'il n'y a pas d'accord, c'est l'accord de branche qui sera prépondérant. Donc, qu'est-ce qui n'est pas bien? Ça va être négocié en local, ce sera des accords locaux entre les salariés et leurs patrons directement. Au final, je ne vois pas ce qui est dérangeant là-dedans.
que les entreprises puissent embaucher que les personnes qui sont d'accord avec les accords d'entreprise existants.
Sachant que les salariés vont pas vouloir voter contre la décision de l'entreprise pour garder leur emploi.
C'est compliqué de répondre sans avoir vu au moins voir le résultat en vrai.
Oui.
On met beaucoup d'hypothèses sur la table. On mettrait pas en bouteille. Donc là, pour le coup, moi je demanderais à voir cette partie, cette chose-là, des accords d'entreprise. Ça a du bien comme du moins bon. Si c'est correctement cadré, ça peut être excellent. Après, une entreprise, quand on parle d'outils de licenciement, on dit qu'ils ne vont pas licencier facilement. Les vraies entreprises qui seront en difficulté, c'est aussi logique qu'on leur facilite d'enlever de la masse salariale, qui est quand même le...
Oui, pour sauver l'entreprise.
Pour sauver l'entreprise, c'est le titre 1, c'est ce qui coûte le plus cher quasiment dans l'entreprise. Donc ça, oui, c'est aussi logique. Il n'y a rien d'illogique dans tout ça. Après, la manière dont ça a été fait, c'est tellement à débat, à manifestation, à 49.3, tutti quanti. Ça fait ce qu'on en est là aujourd'hui et que la loi du travail ne ressemble plus à rien.
Et beaucoup de gens sont contre sans l'avoir lu, en fait, déjà.
Oui, oui. Bah, de toute façon, j'ai beaucoup de gens qui sont contre, qu'on voit manifester avec des banderoles CGT qui ne sont pas syndiqués ou autres syndicats. Quand on voit, on est entre 10 et 20%, je crois, de syndiqués en France, on voit le nombre de manifestants, il y a un petit problème. Je pense que les gens cherchent des prétextes aussi, des fois. C'est juste dire on n'est pas content, mais est-ce que ce n'est pas aussi un affront au gouvernement ?
Parlons des jeunes, par exemple, qui en profitent aussi pour sortir manifester, mais en réalité, est-ce qu'ils ont tous lu la loi travail ? Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'il y a dedans ?
Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le travail ?
Oui, déjà, est-ce qu'ils s'en préoccupent ? Moi, personnellement, j'ai mis du temps avant de m'en préoccuper et de m'intéresser vraiment à ce qu'il y avait dedans, dans cette loi. Quand les manifestations sont arrivées au niveau des lycées, les jeunes ils sont sortis en se disant plutôt ouais c'est génial on va louper une journée de cours pour manifester contre un truc, mais en réalité je pense qu'il y en a peu d'entre eux qui ont vraiment lu le contenu de cette loi quoi.
Alors que pourtant ça va être les principaux concernés dans l'histoire, c'est ceux qui vont vivre le plus longtemps avec la loi, ceux qui ont déjà travaillé 10, 15, 20 ans, finalement, ils vont vivre que 10 ans avec cette loi de travail, on va dire ça comme ça.
C'est déjà le cas avec le CPE du gouvernement Villepin. Les gens ne savaient pas pourquoi ils manifestaient, mais ils manifestaient contre.
En fait, c'est la manifestation, je pense que globalement, c'est un mécontentement général de la politique générale de la France.
C'est un prétexte.
Les syndicats s'en sont servis pour faire des mouvements de foule qui n'avaient pas lieu d'être, en fait.
Puis la technique du 49-3, parce que du coup, comme le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, il est obligé de forcer un peu... il est censé avoir une majorité, mais il y a des frondeurs. Il force le passage de la loi, ce qui augmente encore le mécontentement général de la population.
Ils sont obligés dans le sens où ils ne peuvent pas reculer une nouvelle fois. Le gouvernement Hollande a reculé tellement de fois sur la déchéance de nationalité, sur certaines lois juridiques, la loi Taubira, pas le mariage pour tous, mais une autre loi sur l'organisation de la justice. Ils ont tellement reculé qu'au bout d'un moment... S'ils ne veulent pas essayer d'être réélus en 2017, ils ne peuvent plus reculer, même si leur loi comporte des tas de défauts.
Mais elle n'a pas que des défauts. Enfin, ce que je disais au tout début, il y a beaucoup de nouveaux mécanismes pour accélérer et améliorer la recherche d'emploi derrière.
L'éradication de Pôle emploi.
Non, quand même. On va essayer de le rendre utile. Nuance.
C'est possible.
Ça ne peut pas être pire.
C'est pas faux.
Non, c'est comment que ça s'appelait déjà, le garantie jeune, je crois, ou en fait...
Oui, pour les jeunes étudiants qui sont à la recherche d'un premier emploi, ils veulent les aider en leur donnant, je crois que c'était 461 euros de manière mensuelle.
En gros, c'est un simili RSA entre la fin des études et le début du premier emploi. Parce que ce qui arrive très fréquemment, ça m'est arrivé, c'est à la fin des études, j'ai fini mes études il y a 4 ans maintenant, j'avais pas 25 ans, donc j'étais pas éligible au RSA, et j'avais pas travaillé pour avoir droit à du chômage, évidemment. Du coup, pendant presque un an, 0 euro de revenus de l'État, et en plus, je dois trouver du boulot. Donc, ça implique de se déplacer éventuellement, d'aller voir des entreprises, de bouger partout en France. Là, du coup, la garantie jeune est une bonne idée. Après, il faut voir comment ils vont la financer, mais ça peut être une bonne idée.
Donner de l'argent à des gens gratuitement, moi personnellement ça me dérange. C'est un dicton que les anciens ont toujours dit, c'est toute peine mérite salaire, mais ça marche dans l'autre sens. On peut pas donner de l'argent à des gens qui ne font rien. C'est déjà le cas actuellement, il y a déjà du social à foison, ça coûte un fric fou à l'État, à nous, à ceux qui travaillent et qui eux payent des impôts. Donc j'espère qu'il y aura une contrepartie ou des obligations. et que cette aide ne sera pas durable dans le temps, ce ne sera pas quelque chose qui n'ait pas de limite.
Si tu veux, c'est un peu comme les bourses dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tu es en train de dire que les étudiants, leurs bourses qu'on leur donne pour pouvoir survivre quelque part, parce que sinon, comment on pourrait financer nos logements, notre nourriture ?
Les bourses sont cadrées, c'est une période où tu es à l'école.
Et bien justement, c'est une période d'un an pour la garantie jeune.
Donc voilà, si c'est, parce que je n'ai pas les chiffres en tête de cette chose-là, parce que je ne me sens pas concerné par le problème. Tant que c'est cadré et que c'est borné à des limites, c'est très bien.
Dans tous les cas, une fois qu'il a la garantie jeune, après, il bascule au bout d'un moment sur le RSA à 25 ans. Et
puis... Mais je comprends pourquoi tu dis ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui profitent de leur bourse, de leur logement au niveau du CROUS.
À aujourd'hui, globalement, en France, quand on regarde, il y a des gens qui gagnent plus que les travailleurs à rester chez eux, avec toutes les aides, etc. Et c'est pas, on n'encourage pas au travail. Il y a d'autres choses à faire, je pense. Alors, je ne suis pas expert pour ça, mais il y a d'autres choses à faire pour encourager au travail et faire fonctionner l'économie. C'est pas en restant chez soi à rien faire et en touchant les aides de la CAF et autres organismes qu'on va faire avancer le pays.
Bah, du coup, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut rendre utile Pôle emploi.
Utile Pôle emploi, les associations, les collectivités locales aussi qui peuvent faire travailler un petit peu les personnes, par exemple sur un temps de 10 heures par semaine, pour toucher
tout
une rémunération. Ça peut embellir les villes, ça peut embellir...
Faut générer de l'emploi aussi. Hein,
Mais ça génère c'est pareil, à faire travailler des gens qui touchent une somme, ils vont toucher le revenu...
Le RSA,
le RSA ou l'équivalent pour les jeunes.
La garantie jeune.
Garantie jeune, merci. Ils peuvent très bien avoir des ateliers découvertes dans les villes, etc., ou durant l'été pour les centres aérés, etc. Ça crée de l'emploi indirectement, puisque les mairies peuvent se rendre compte d'un besoin, ou des entreprises locales, ça peut être plein de choses. Ou l'associatif aussi. Les associations sont souvent en manque de personnel et ça peut aider.
Après, il y a du boulot pour tout ce qui est nettoyage, hein, parce que vu dans l'état...
Voilà, par exemple, le nettoyage des voiries, etc., c'est pas gratifiant comme travail. Ça demande pas de qualification non plus. Quand il y a quelqu'un qui est au RSA, le matin, passer un coup de balai devant sa rue, c'est ce que les employés communaux n'aient pas à faire, ça leur prend 10 minutes. Et voilà. Bon, c'est un peu caricatural, mais l'idéal est là.
C'est surtout que les gens ne veulent pas le faire parce que pour eux, ce n'est pas gratifiant et qu'il faut se lever. Et ils touchent mieux, ils sont mieux chez eux avec à rien faire aussi.
C'est pas faux.
Après, moi, je vois, j'en connais. Ce n'est pas du tout leur branche. Le boulot, c'est éboueur. C'est complètement dégradant. Mais il a réussi à trouver 2 mois en tant que ça. Il a sauté dessus. Il était content comme pas possible parce qu'il n'en pouvait plus de faire autre chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en a... Oui. Ils veulent rien faire. Il y en a qui veulent absolument bosser. Ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi.
Le problème, c'est que des fois, tu n'as pas la mise en contact entre les personnes qui veulent travailler et l'emploi n'est pas facilitée. Je vais revenir sur Pôle emploi, mais à la fin de mes études, je vais encore parler de moi, désolé. Je me suis inscrit à Pôle emploi, comme tout le monde. Je suis arrivé à l'entretien. Je leur ai dit « Bonjour, je suis ingénieur chimiste, en l'occurrence, même si maintenant je fais de l'info. » La nana m'a fait « Je peux rien faire pour vous, enfin inscrivez-vous si vous voulez, mais vous ne trouverez pas. » Et tu vas sur le site de Pôle emploi, il y a une catégorie qui s'appelle ingénieur. Pas de domaine, rien. Tous les ingénieurs sont bazardés dans une seule catégorie. Et comme le titre de l'offre d'emploi est limité en caractères, tu as ingénieur quelque chose, il te reste genre 10 caractères pour caser le reste, et tu es obligé de regarder les annonces une par une pour voir si déjà ça concerne ton domaine. Donc,
au niveau efficience, on a vu mieux. Hein.
Voilà. Donc, je sais qu'après, pour les cadres, autant aller sur l'APEC, au moins, eux, ils savent ce qu'ils font. Mais ce serait bien que l'entreprise publique qui est censée aider à la recherche d'emploi fasse ça bien, quoi.
Il y a 3 semaines, à peu près, j'ai un ami qui est venu me voir. Il a perdu son boulot il y a 5 ou 6 mois. Il était cadre dans une entreprise de BTP. Il a été à Pôle emploi. Pôle emploi lui a dit « Monsieur, vous avez le droit à 24 mois de chômage. Il ne faut pas venir nous voir avant les 6 derniers mois, on ne fera rien pour vous. » Donc, quand on voit les discours que ces gens tiennent, il faut espérer que toute la réforme de la loi travail va aussi les toucher et faire à ces fonctionnaires, je peux le dire parce que j'en suis un, leur fasse un petit peu bouger le cul. Parce qu'ils ne font pas grand-chose de leur journée, ils ne sont pas fatigués, Et en fait, de nous ou des gens concernés, ils n'en ont absolument rien à faire. Bah,
c'est plutôt l'inverse. Comme le chômage augmente, du coup, ils augmentent le laps de temps entre deux rendez-vous Pôle emploi. Et du coup, il y a un suivi qui est encore moins bon et encore moins personnalisé.
Ça marche dans les deux sens, effectivement.
Donc, du coup, actuellement, pendant plusieurs mois, on peut ne pas avoir de rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi et être tranquille, si je puis dire ça comme ça, avec les indemnités chômage, sans rien faire.
De la même manière où, entre deux rendez-vous de Pôle emploi, tu n'as pas forcément le même conseiller, ce qui est aussi une aberration. Un conseiller est là pour te conseiller, on se connaît, il y a de la discussion. Si dès que tu as un rendez-vous, c'en est un nouveau, faut tout recommencer. Au final, c'est de la perte de temps, c'est du manque d'efficience. C'est voilà. Moi, j'espère vraiment que ces gens-là seront touchés par la réforme.
Positivement, tant qu'à faire.
Oui, tant qu'à faire. Sinon, négativement, c'est pas possible.
Un réveil qui m'agresse, un café qui me brûle, des bouchons qui m'oppressent, aimable préambule d'une journée sans paresse pour laquelle je stimule toute la mauvaise graisse qui pèse sur mes rotules. Aujourd'hui comme hier, efficace, inventif, affaire après affaire, implique et productif. Je suis un trentenaire, concerné, combatif. Chaque jour je reconquiers ma place de jeune actif. Encore une journée PTC, traduisez pas le temps de chier. Pour éviter qu'on me dégraisse, j'apprends à serrer les fesses. J'avale in extenso la bouffe du salarié, le ragoût Sodexo ou le poisson pané. À l'heure du déjeuner, l'estomac détraqué, je sens les soubresauts de mon foie surbooké. Encore une journée PTC, traduisez pas le temps de chier. Pour éviter qu'on me dégraisse, j'apprends à serrer les fesses. Car une mince feuille de papier, à elle seule peut séparer le salarié bien noté du chômeur de longue durée.
Du verre et de l'acier, environnement high-tech. Ici, tout est feutré, nickel, calme, impec. Les diodes des modems s'éteignent et puis s'allument. Pas de place pour la flemme. Je me cache quand je fume.
Seuls mes ballonnements troublent cette harmonie. Il faudrait aller faire, mais je n'ai pas le temps. Ici, le haut débit, c'est pas pour les sphincters. Je serre en attendant l'ulcère. Encore une journée PTC, traduisez pas le temps de chier. Pour éviter qu'on me dégraisse, j'apprends à serrer les fesses. Car une mince feuille de papier, à elle seule peut séparer le salarié bien noté du chômeur de longue durée. Oh, j'entrevois la liberté. Que dis-je, la libération? Pas de chance, c'est occupé. Vais-je mourir d'une occlusion?
En parlant de la réforme, du coup, revenons un peu sur le sujet. Que pensez-vous de l'article 2? L'article qui fait que les accords d'entreprise priment sur les accords de branche, ce qui fait que, nous le rappelons, les accords faits directement en référendum par les employés et employeurs d'une entreprise prennent le pas sur les accords faits par les syndicats au niveau national.
Sachant que les accords d'entreprise peuvent aussi être faits par les syndicats s'ils sont majoritaires, il me semble, quelque chose comme ceci, s'ils représentent plus de 50% des salariés.
Mais de manière locale.
Au sein de l'entreprise. Sachant que c'est très très rare, parce que c'était quoi, c'était 10 ou 20% de syndiqués?
Oui, tout peine, oui.
Donc ça va être dur d'avoir une majorité de syndiqués quand même.
T'as des entreprises qui sont énormément syndiquées et d'autres qui ne le sont pas du tout.
La SNCF.
La SNCF, entre autres.
SNCF, La Poste,
en général,
les entreprises publiques. Les anciennes entreprises publiques.
Voilà, le service public, c'est ancré fortement le ce qui est syndicat.
Mais, sur le principe, faire des accords d'entreprise qui prévalent sur les accords de branche, c'est une bonne idée, parce que localement, la loi est peut-être pas adaptée. Enfin, pour une raison X ou Y, il y a un contexte particulier localement qui fait qu'on a besoin d'horaires particuliers, on a besoin de travailler plus sur certaines périodes et moins sur d'autres. C'est le problème de l'accord de branche, c'est que c'est général au secteur globalement et que c'est très très dur de gérer tous les cas. On va dire ça comme ça.
En fait, ces fameux accords, moi je ramène ça un peu sur les petites entreprises de 4-5 salariés. En général, eux marchent déjà comme ça.
Oui.
Il y a des arrangements avec le patron on le connaît, on s'arrange, bon bah on va faire ça comme ça, comme ça. Les accords de branche, on n'en a rien à faire. Les accords globaux, on s'en fout. Et en fait, on va appliquer ça aux grandes entreprises. Moi, je pense que ça, si c'est bien fait, ça peut être très, très, très bien.
Sachant que globalement, les grandes entreprises, ça va être assez dur, de, vu que les grandes entreprises, en général, sont assez diversifiées ou traînent sur... enfin, ont beaucoup de contextes différents et que même plusieurs sites en France ou à l'étranger, ça va être très dur de faire un accord d'entreprise, je pense. Ça concerne plus les moyennes entreprises qui ont un seul site en France avec un contexte très particulier.
Faudra voir quand ça sera en place.
Ouais.
De toute façon, ça sera en place, ça passera de force, donc ça passera. Donc on le verra d'ici un an, ça va commencer à se décanter, je pense.
Ouais.
Il y en a pour un petit moment que ce soit appliqué. Mais...
En septembre, reprennent les manifestations.
Oui, mais qui ne changeront rien au problème, parce que les manifestations, pas content, Hollande, il va faire, je m'en fous, je ne serai pas réélu, donc ça passe quand même. Et voilà.
Qui sait.
Non, mais du coup, un autre article de la loi travail, c'est celui où on peut... Les accords justement d'entreprise pourront moduler en fait la rémunération supplémentaire des heures supplémentaires, donc c'est-à-dire la part supplémentaire qui se rajoute, qui avant était à 25% et qui maintenant peut être modulée jusqu'à 10%. Et l'autre chose sur la modulation du temps de travail, qui pourra faire des semaines au-delà des 35 heures dans certaines entreprises, qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça au final, puisqu'on se retrouvera avec des branches maintenant qui sont favorisées, comme les chauffeurs routiers par exemple, qui ont obtenu gain de cause en faisant annuler cet article pour leur branche à eux, puisque leur rémunération est hautement dépendante des heures supplémentaires.
Effectivement,
plus du coup, de pour eux, ça aurait été une perte de 200 à 300 euros par mois si l'entreprise décidait de réduire les heures supplémentaires. Donc ça va créer des distensions entre les différentes branches. Certaines auront le droit, d'autres non.
Bah, sur le principe, de toute façon, ça va être décidé dans un accord d'entreprise. Donc si tous les salariés perdent 200 euros, l'accord ne va pas passer. Sur le principe, ils vont voter contre. Enfin, s'ils arrivent à... résister, on va dire ça comme ça, à leur patron et à faire valoir leurs droits. Normalement, s'ils perdent 200 euros, ils vont voter contre. Donc
Après, c'est les heures supplémentaires, ça doit rester de manière ponctuelle, c'est quelque chose de régulier normalement. Les entreprises qui ont besoin, à une époque, à un instant T, de faire des heures, mais qui n'ont pas forcément les finances pour les payer, parce qu'ils fabriquent un produit qui n'est pas encore vendu, donc ils n'ont pas forcément la rentrée d'argent nécessaire pour combler cette partie-là. Donc, à un bout d'un moment, ils peuvent aussi dire « Bon, on n'arrive pas à payer, il faut trouver d'autres solutions. » Et ça peut en faire partie. Ça peut être que temporaire aussi.
Oui, effectivement.
C'est pas forcément ponctuel, les heures supplémentaires. Selon certaines entreprises, comme on l'a dit, par exemple, les chauffeurs routiers, on aura du mal à faire bloquer un chauffeur en plein milieu de la France s'il doit aller, par exemple, dans le sud, parce qu'il est arrivé aux 35 heures et qu'il bloque.
C'est vraiment une catégorie à part. C'est quelques métiers qui sortent du lot.
Le problème, c'est qu'il n'y a que des catégories à part, en fait, quand tu regardes. Tu peux pas faire de généralité.
Oui, après, dans le milieu de l'industrie, qui est relativement carré, il y a quand même des grandes branches où ça reste, on va dire, avec la carrée. Et dans d'autres entreprises, ils ne font pas d'heures supplémentaires où ça ne peut pas exister. Les entreprises qui font les 5-8, par exemple, comme Renault, comme les heures sup, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'en font pas.
Oui, l'usine tourne en continu, les horaires d'équipe sont fixes.
Voilà. Mais après, moi, j'aimerais bien que ce soit vraiment appliqué, qu'on puisse au moins avoir 10%, ce qui ferait aux fonctionnaires que, comme moi, je serais majoré aussi comme tout le monde. Qu'actuellement, j'ai aucune majoration, parce que l'État est très fort pour ça, c'est faites ce que je dis, et surtout pas ce que je fais. Donc, avoir au moins 10% de majoration, ça m'irait, moi.
Après, il y a la solution, ils payent pas assez, pas d'heures sup. Hein.
Alors oui et non. C'est écrit dans mon contrat de travail, je suis au service de l'État, et j'ai pas refusé de faire les heures supplémentaires.
Oui. Quand on est au service de l'État.
Et ben oui, mais c'est mon statut qui est comme ça.
Ça peut avoir que des avantages.
Les belles idées reçues de nos chers Français. Nous n'avons pas tous des avantages. Nous ne travaillons tous pas à la SNCF. Et nous n'avons tous pas des primes de non-prime.
Des primes de non-prime?
Oui, c'est pour la SNCF. Ceux qui n'ont pas la prime, ils ont la prime de non-prime.
D'accord.
À la place de la prime charbon.
Oui, parce que tout le monde n'a pas la prime charbon. Donc ceux qui ne l'ont pas, ils n'étaient pas contents. Ouh, méchant. Bon, prime de non-prime. Voilà. Bon,
et sinon, autre sujet qui peut être intéressant d'évoquer, c'est le travail du coup après est passé au Sénat, qui, rappelons-le, est majoritairement à droite, et a presque entériné le concept des 35 heures. Du coup, est-ce que vous pensez que repasser à 39 heures serait une bonne idée ?
C'est dur de faire une généralité sur le nombre d'heures. L'idée à la base des 35 heures, c'est on travaille moins, donc il y a besoin de plus embaucher, donc il y a besoin... Enfin, c'est censé faire réduire le chômage. D'accord que ça marche pas très très bien, on va dire ça comme ça, on va pas passer à 32 ou 30 heures, de toute façon, on peut plus redescendre en nombre d'heures, c'est plus possible. De toute façon, il n'y aurait pas de quoi embaucher une personne supplémentaire pour compenser. Après, repasser à 39, je sais pas trop quels effets ça aurait. Est-ce que ça aurait l'effet inverse? Ça ferait remonter le chômage? Je sais pas.
Après, ça dépend de quelle manière c'est fait.
Voilà.
Enfin, déjà, il faudrait que tout le monde soit à 35 heures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Encore, il y a encore des gens qui sont à 39 ou à 37,5 avec des RTT.
Je suis à 37... je dois être à, ouais, quelque chose comme ça.
37,2.
Oui, après, c'est des calculs d'apothicaire.
Ouais, voilà.
Après, repasser à 39 heures, si c'est travailler 39 heures, payer 39, ça ne me dérange pas.
Oui, 39 heures, payer 35, par contre, ce n'est pas cool.
Je ne travaille pas pour la gloire. On est bien d'accord.
Mais si, tu es au service de l'État.
Oui, non, mais j'aime mon boulot, je travaille, je sais pourquoi je travaille, mais il y a un moment, il faut payer les factures à la fin du mois et il ne faut pas déconner.
Facture mais pour l'État.
Aussi en partie, oui. mais non, oui, repasser à 39 heures ou à 40, ça ne me choque pas. Après, pour que ça puisse passer, il y aura forcément des contreparties pour les salariés. Ils ne repasseront jamais à 39 heures comme ça, sans rien d'autre changer, c'est pas possible.
39 heures brutes.
C'est pourtant ce qui est au programme de la majorité des candidats à la primaire à droite en ce moment, c'est repasser aux 39 heures.
Alors,
supprimer l'ISF aussi en même temps, bon, ça c'est autre chose.
Oui, c'est un sujet, mais après, on reparle du programme de François Hollande et on regarde le nombre de points qu'il a tenu du programme.
Il en a tenu pas mal au final, mais sauf qu'ils étaient totalement à côté, et ce qui a déplu fortement... de manière populaire, c'est les choses qu'il n'avait pas annoncées, justement.
Et qu'il a faites. Voilà, qu'ils en parlent dans leur programme s'ils ont envie, après, est-ce que ça passera? Enfin, moi, je sais personnellement, pour le coup, si on fait repasser à 39 heures, payer 35, ça ne va pas être possible. Il y a un moment, enfin, voilà, non. Donnez-moi quelque chose en échange, des RTT, une augmentation de salaire, qu'on a déjà eu cette année, 10 € par mois. Donc, voilà... Il faudra forcément une contrepartie pour rééquilibrer les choses. Ils pourront, même s'ils essayent au départ de le passer brutalement, ils savent qu'ils vont se faire moucher.
Sachant qu'il y a encore un pouvoir dont on n'a pas parlé, c'est que si la loi travail passe, il faut encore qu'elle passe au Conseil constitutionnel. Qui peut... on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il y aura dans la loi finale, mais certains articles pourraient...
Le Conseil constitutionnel est neutre politiquement. En soi, il ne peut pas recaler une loi parce qu'elle ne lui plaît pas dans l'esprit. Il peut la recaler parce qu'elle ne suit pas justement la Constitution et donc les éléments principaux de notre...
Oui, mais c'est dans les tuyaux aussi qu'il y aurait peut-être...
Ah bah, de toute façon, les opposants, et ils sont nombreux à la loi travail, vont tous saisir le le Conseil constitutionnel pour essayer de faire blocus le plus possible.
Après, c'est vrai qu'il y a peu de chances que le Conseil constitutionnel bloque la loi. Enfin, il faudrait vraiment qu'il y ait un article, qu'ils arrivent à le tourner de façon à ce que ce soit vraiment contraire à la Constitution, mais c'est un cas à ne pas négliger.
Ça peut arriver.
Surtout qu'il y a certains articles qui sont là pour rassurer les gens, même si on n'en parle pas beaucoup. Il y a le compte activité qui est là pour faire rassurer les gens aussi, mais qu'on ne parle pas beaucoup.
Oui, la fusion du compte formation, je ne sais plus, il y a des heures pour les associations, quelque chose comme ça, il me semble.
C'est une sorte de réserve financière qui s'accumule tout au long de sa vie professionnelle, quelle que soit l'entreprise, et qui continue de s'accumuler.
Enfin, un compte formation généralisé, parce que les heures de formation, j'ai plus l'acronyme en tête, étaient déjà appliquées, le compte formation. Il y a pas mal de petits nouveaux éléments qui sont pas mal pour les salariés. Le problème, c'est que dans l'esprit des gens, on n'en entend pas parler, et ça contrebalance pas tout ce qu'ils perdent à côté.
Les syndicats ne font pas non plus la publicité des choses bien.
Pas tous les syndicats, je précise. La CGT et FO a le cul entre deux chaises, par contre la CFDT est pour la loi.
Oui.
Maintenant.
Maintenant.
J'ai beaucoup entendu dans l'esprit des jeunes que du coup, ça serait les patrons qui auraient plus de droits, qu'on serait licencié plus facilement. Chez les étudiants, en tout cas, c'est ce qui ressortait. C'est pour ça qu'ils manifestaient. Mais au final, ils n'ont pas vraiment été voir dans le fond, puisque tout marche par accord.
Il y avait des prédispositions au licenciement qui étaient en plus, qui n'existent plus maintenant, et qui étaient présentes sur la première version de la loi qui avait, entre guillemets, fuité. À mon avis, c'était plus un test de
popularité de la loi.
Popularité pour voir si, avant la vraie sortie, elle allait se faire recaler ou pas. Et dans cette première version-là, il y avait des prédispositions qui facilitaient le licenciement, qui était une demande du MEDEF, Mais c'est vrai que dans la logique, les gens ont du mal à concevoir que pour améliorer l'embauche, il faut améliorer le licenciement dans l'esprit. Alors que ça a du sens dans certains cas.
Ça serait bien de pouvoir aussi que de faciliter les licenciements soit valable aussi pour les fonctionnaires.
Oui, parce que fonctionnaire, c'est un emploi à vie.
Il y a que, normalement, sauf une faute très grave, et vraiment une faute professionnelle, tuer quelqu'un, voler, etc., votre emploi est conservé. Vous gardez tout, même si vous n'êtes plus bon à rien, on vous met dans un placard, et vous restez là, et on ne touche surtout pas à votre salaire, parce que seulement, c'est des inutiles. Il y en a plein les placards dans toutes les fonctions publiques, et ils sont tous en haut. Il y a, quand vous regardez globalement les chiffres des salaires moyens des fonctionnaires, ils sont tous au minimum vers 1600, 1700 euros de moyenne.
Brut ou net ?
Net, hein, on parle de net.
Quand même.
Ouais, pas beaucoup d'écart chez nous.
Oui, c'est vrai. De toute façon, ça revient dans la même poche à la fin.
C'est ça. Et au final, merci, je suis perdu. Voilà. Et quand on voit les salaires, nous, qui existent, moi, je vois ce qu'on appelle les catégories C, donc c'est le corps ouvrier, c'est ce qu'il y a de plus bas. Nos salaires à nous, on est au SMIC, avec une petite touille en plus. Toute petite, un petit grain de sable qu'on nous a donné pour nous donner à manger. On est quand même pas mal. Donc, pour que le salaire moyen soit remonté aussi haut que ça, c'est qu'il y a quand même du monde là-haut qui prend du fric. Et ces gens-là, on peut pas les virer. Le seul moyen, c'est de leur mettre vraiment la pression pour les rendre malades et qu'ils s'en aillent. En général, qu'ils partent en arrêt maladie. Il faut que le travail s'applique aussi à ces gens-là pour les faire bouger, soit les faire partir, soit faire quelque chose. Il faut un petit peu... Enfin, je fais un peu l'avocat du diable, il faut un peu déprotéger aussi certains fonctionnaires, enfin les fonctionnaires en général.
En fait, sur le principe, je vois pas pourquoi le régime des fonctionnaires est si différent du régime normal des salariés. Je suis d'accord qu'il y a des spécificités inhérentes au fait d'être fonctionnaire, que ça a besoin d'être un peu différent. Enfin, ça devrait pas être si différent.
Alors, il y a vraiment des corps d'État. Les fonctionnaires, il faut vraiment les découper
en
plein de morceaux. Il y a les fonctionnaires d'État. Ceux-là, ils prennent beaucoup de fric, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est beaucoup de gens dans les ministères. Voilà.
Oui, c'est le politique, globalement.
En gros, on va résumer, c'est ça. Ça, puis tous les services secrets, etc. C'est tous les fonctionnaires d'État, en général. Ensuite, vous en avez toute la partie éducation.
Les profs.
Les profs. Bon, ils n'ont pas un métier facile tous les jours non plus. Les gamins, il faut les supporter. C'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas ? Et voilà. Après, il y a la territoriale, c'est tous les agents communaux, etc. Et vous avez les hospitaliers où on est vraiment encore un peu à part parce que nous, on touche vraiment le soin.
Oui, donc il y a des spécificités. Il faut que le soin fonctionne. Enfin, il y a des contraintes liées au fait à la survie des patients, tout simplement.
Voilà. Mais après, on dit ça, mais... Pour la territoriale, ceux qui s'occupent des routes, par exemple, la DDE, anciennement la DDE, maintenant je ne sais plus comment ils s'appellent.
Enfin, les camions orange, quoi.
Les camions orange, voilà. C'est pareil, il y a un accident, il faut qu'ils soient là.
Oui.
Enfin, voilà, donc c'est vraiment tous des régimes spéciaux. Tous les gens ouvriers, en général, sont là pour travailler. C'est ceux qui sont en haut, qui font des plans sur la comète. Pour ne pas citer, je connais un hôpital qui était en travaux, ils ont engagé des millions d'euros. Ils ont embauché beaucoup de gens pour travailler sur ce projet de travaux. Seulement, le projet a été arrêté. Mais ces gens qui sont embauchés, ils sont là. Mais on ne sait pas quoi en faire.
Oui, parce que du coup, on ne peut pas les licencier, vu que c'est des fonctionnaires.
Et voilà.
De toute façon, c'est une spécificité très franco-française d'avoir des fonctionnaires. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, surtout les pays nordiques, la majorité de la fonction publique est embauchée dans un contrat classique.
Contrat privé, en fait.
Il y a aux alentours de 10% à peu près de personnes, je ne sais plus dans quel pays j'ai eu ça, ou de personnes qui sont vraiment fonctionnaires dans le statut dans ces pays-là. Donc c'est très français d'avoir plein de fonctionnaires.
Alors, on y vient aussi en France. Maintenant, toutes les fonctions publiques hors prof peuvent et font beaucoup de CDI, donc des contrats de droit privé, comme toute entreprise.
Oui.
Et avec les mêmes problèmes que les entreprises.
Les mêmes contraintes.
Voilà.
Comme ce qu'ils ont fait à Orange.
Oui, alors Orange, c'est encore un cas à part, parce que c'est l'entreprise complète qui est passée du public au privé. Donc ils ont gardé les fonctionnaires pour finir leur carrière, et les nouveaux sont rentrés vraiment en privé. Dans les hôpitaux français aujourd'hui, les gens, on les embauche sur des CDD, des vrais CDI. Bon, après, il y a toujours le problème des contractuels, c'est des CDD qui durent 5, 6, 7 ans, des gens, ils sont renouvelés 25 fois. Je crois que c'est 3 fois maximum sur 24 mois.
Légalement, oui, c'est 3 CDD d'affilée.
Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Merci l'État français. J'ai vraiment pas lu toute la loi travail. J'ai survolé comme beaucoup de gens. J'ai suivi un peu les médias. pas trop non plus parce qu'ils en racontent. Et j'espère que dans le fond, il y a quand même des choses qui vont faire avancer la France et essayer de faire un peu redémarrer l'économie.
Et faire baisser le chômage.
Ça, c'est intimement lié. Si...
Oui. Sachant que les perspectives actuelles de croissance sont plutôt à la hausse, une légère hausse.
Alors c'est un peu un leurre, parce oui. que la hausse actuelle qu'on a n'est pas due au fait de nos réformes, mais elle est due au fait que le cours du pétrole est extrêmement bas, ce qui à l'importation oui. fait gagner beaucoup d'argent, et également due au fait que les banques centrales mettent un taux d'intérêt extrêmement bas, ce qui permet aussi de booster l'économie, ce qui est fait exprès évidemment pour booster l'économie de la zone euro. Et ces deux choses-là font qu'on a un peu de croissance, mais il ne faut pas croire que c'est parce que c'est la France qui se débrouille bien.
Ah non, non, non. Mais il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il y a un peu de croissance, donc on peut espérer que l'économie reprenne. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends, et ce n'est pas parce qu'on essaie de faire des trucs qu'il y a de la croissance.
On va récupérer quelques Anglais.
Ouais, enfin, les Anglais, on les critique beaucoup avec leur Brexit, mais ils sont à un chômage...
Ils sont en plein emploi, mais par contre, en emploi précaire, ils ont leur dose.
Voilà, comme en Allemagne d'ailleurs.
Beaucoup de mi-temps et après
des doubles emplois surtout. Beaucoup de gens qui sont en double emploi.
Mmh. Mais en Allemagne, c'est pareil. Jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de SMIC, je crois, ou enfin pas de salaire minimum.
Il a été mis l'année dernière.
Oui, voilà. Et sur le papier, ils ont un taux de chômage très très bas, mais ils ont aussi
un taux de pauvreté.
Un taux de pauvreté, voilà. Enfin, ils sont quand même au-dessus du seuil de pauvreté décidé par je ne sais plus quel organisme de l'ONU. Je sais plus lequel, enfin bref. Mais bon, ils vivent pas bien. Enfin, une bonne partie des gens sont pauvres.
Il y a beaucoup de temps partiel et en plus, là-bas, il n'y a pas de minimum, d'heures minimum pour un temps partiel.
Oui, on peut faire un temps partiel de 2 heures.
C'est ça.
En France aussi, actuellement, on peut le faire. Un patron, par contre, un patron ne peut pas vous proposer moins de 24 heures aujourd'hui.
Oui.
Mais l'employé peut dire, moi, le 24 heures ne m'intéresse pas, je veux un 12 heures.
Oui, c'est à la proposition du salarié.
C'est le salarié qui a pouvoir pour cette situation-là. C'est ce qui m'arrive, parce que côté de l'hôpital, ça ne paye pas beaucoup, il faut un deuxième petit boulot. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai un autre petit contrat à côté de quelques heures par mois.
Pour compenser.
Pour compenser un petit peu.
Dans tous les cas, les pays qui se débrouillent le mieux économiquement actuellement, c'est ceux qui ont des emplois assez précaires, comme l'Italie avec son Jobs Act, l'Allemagne qui n'avait pas de SMIC, l'Angleterre, ses doubles emplois. Par contre, les pays qui ne font pas de réforme là-dessus, sont assez à la traîne. Espagne, Grèce,
ceux qui se cassent la tronche dans la zone euro, globalement.
Et qui font de l'austérité, mais ça ne marche pas très bien.
Une minute pour conclure, si vous voulez dire un dernier mot.
On va reprendre ce qui a été dit au tout début. La loi travail, bien, mais pas top.
Ouais, je pense que ça résume bien. Il faut avoir dans l'application comment ça sera fait.
Et surtout, il faudrait mieux informer. Parce que là, la population est globalement contre la loi, alors qu'elle n'est pas foncièrement mauvaise.
Elle n'est pas contre la loi, vraiment, en fait. Elle est contre le gouvernement. Voilà. Valls et
oui, c'est surtout l'ordre. Pour montrer le mécontentement contre le gouvernement.
Voilà, donc la loi en elle-même, pourquoi pas ?
À voir s'il n'y a pas de dérive après qui en vienne.
Allez, le temps imparti est écoulé. Merci à chacun et chacune d'avoir participé et surtout d'avoir bien échangé dans le respect de tous. C'est rare dans les débats actuels et surtout au niveau politique. Quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur les réseaux sociaux. C'était Sur Écoute. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Ciao.
Cette émission a été réalisée par l'association Ivasson Studio et est placée sous licence libre Creative Commons Paternité. Pas de modification, pas d'utilisation commerciale, diffusion, autant que vous le voulez.